Oui, on est toujours là. La Vassy, j'y suis, à 15h, sur France Inter.
Eh ben, oui.
Bon, monsieur Mermet, quel bonheur de vous retrouver après une angoisse totale de se dire « reviendra, reviendra pas ». Donc, là-bas, si j'y suis, ben, tu y es toujours et nous, on est toujours là à t'écouter. Beaucoup, de plus en plus nombreux, j'espère. Donc, voilà, merci pour les drôles d'oiseaux et les putains d'oiseaux. Merci pour Belle-Île, merci pour Pierre Barou. Merci pour les au revoir et les retrouvailles. Et quelle chouette retrouvaille. On vous embrasse tous et quel bonheur de vous entendre. Ciao.
Salut les gauchos, je suis heureux, une heure de moins. Et ça va aller de pire en pire. Ciao, à très bientôt.
Salut Daniel et bonjour à tous les AMG. Grand, grand plaisir de te réécouter pour cette rentrée 2013. Malheureusement, encore avec des mauvaises nouvelles. On a appris que tu étais donc supprimé le vendredi. Voilà, donc sache que nous sommes très, très, très nombreux à t'écouter, hein, tu le sais. Et qu'on sera très très nombreux à te soutenir et à soutenir aussi tous les journalistes d'Inter qui sont en difficulté. S'il faut venir jusqu'à la Maison Ronde manifester devant les portes, on le fera. Parce que les AMG sont quand même assez nombreux et ouais, on a besoin d'une radio de qualité et d'information. Voilà, merci Daniel, ciao.
Salut Daniel, j'espère que tes vacances de Bourges à Belle-Île se sont bien passées. Je ne suis pas sûr que Chomsky serait fier de toi. Salut.
Salut Mermet. Ils veulent ta peau, c'est écœurant. L'émission de rentrée était magnifique. Sur les chemins de bon matin, à bicyclette. Ah, j'adore cette chanson, salut.
Merci pour ces messages, chers AMG. Nous revoilà, c'est reparti. On reste à Belle-Île-en-Mer. Aujourd'hui, à Belle-Île-en-Mer, on évoque... Claude Monet, Sarah Bernhardt, Arletty, mais jamais, ou presque jamais, Auguste Blanqui. Et pourtant, Auguste Blanqui a eu beaucoup d'importance en général, mais à Belle-Île-en-Mer en particulier. Mais à part une avenue ou un collège, qui connaît cet Auguste Blanqui qui fut surnommé l'enfermé pour avoir passé la moitié de sa vie, 33 années en prison. 33 années de sa vie en prison, et pas dans une seule prison, mais dans une vingtaine de prisons. Et cet enfermement l'a pas empêché de devenir la grande figure du socialisme révolutionnaire au XIXe siècle en France. Il a créé des journaux, des sociétés secrètes, il a écrit des bouquins, il a monté des insurrections et il a édifié la jeunesse révolutionnaire française, notamment parisienne, au cours de ces années. 4 fois condamné à mort, 4 fois gracié, jusqu'à sa libération en 1879, après la campagne menée par Victor Hugo et Clémenceau en sa faveur. Et Blanqui a été enfermé cette année durant dans le pénitencier de Belle-Île-en-Mer, de 1850 à 1857. Et là, au cours de ces 7 années, il a écrit, il a milité par l'écriture. Et à l'intérieur, on va le voir, à l'intérieur du pénitencier, il a enseigné aux autres détenus. Il y avait 300 détenus politiques dans ce pénitencier. Et il a même jardiné. il a jardiné, il faisait des melons, il faisait des fraises. Et on dit qu'il avait même un âne. Singulière histoire quand même que celle-là. Et nuit singulière, très singulière, celle du 4 avril 1853. Cette nuit-là, après des mois de préparation avec un comparse, eh bien, Auguste Blanqui tente la belle, la grande évasion. Et c'est ça qu'on va évoquer au cours de cette heure, un aspect tout à fait méconnu de Belle-Île, pendant que les uns vont à la plage, les autres vont se taper une petite crêpe à la terrasse. Nous, on va s'intéresser à cet enfermé, à ce Blanqui. Auguste, auparavant, encore quelques messages. parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ah, oh, ben qu'est-ce que ça fait du bien, la rentrée et votre retour à tous. Parce que vraiment, je me suis sentie seule tellement c'était... Là, 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 là. Bon, du coup, je savais pas, j'ai éteint la radio, et donc j'ai raté Philippe Bertrand, le seul qui aurait été intéressant. Bon, et ben je suis contente de retrouver tout le monde. Hein. Ouh, ça fait du bien, merci. À bientôt.
Bonjour Daniel. Eh ben, j'ai quitté Belly samedi, le cœur lourd, comme à chaque fois que je la quitte. Et puis, bah, lundi, j'ai écouté ton émission et j'ai juste fermé les yeux et puis j'y étais à nouveau, quoi. Ouais, j'étais à nouveau avec mon vélo, dans la fougère, avec le parfum du fenouil et le parfum des figuiers. Alors, merci d'être encore là, Daniel. Merci pour ce pur moment de bonheur. C'est Marie de Montmorency.
Au-dessus de lui, on voit des oiseaux.
Oui.
Tout autour de lui, il y a de l'eau.
Alors, inutile de dire qu'aujourd'hui, les milliers de vacanciers, de touristes qui viennent ici, ils apprécient... la délectation. Belle-Île s'est passée de la relégation, c'était un lieu de relégation et c'est devenu un lieu de délectation. Alors les gens viennent se délecter, ils ont bien raison, de Belle-Île, de Chaulle, Sarah Bernard, le phare, les légendes belle-îloises, les aiguilles de Porcoton, Claude Monet, etc. Mais Auguste Blanqui est oublié. Il y a quelque chose d'un peu moche, il y a un malaise pour les belle-îlois. Qui ont été ceux qui l'ont dénoncé. Et ça, c'est quelque chose dont ils sont peut-être pas très très fiers.
Bandits, voyous, voleurs, schnappants. Qu'est-ce que ces hurlements ? Bandits, voyous, voleurs, schnappants. C'est la meute des honnêtes gens. Qui fait la chasse à l'enfant.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Anaël Verzo, Blanqui à Belle-Île.
Petit homme n'est pas mort.
Flight number 2, arriving from New York.
Non, mais il y a de la musique, ça fait rien. On aperçoit une chapelle. Ici. Là, c'est la citadelle. C'est la citadelle Vauban qui surplombe le port de Palais, qu'on voit en arrivant, qui est très célèbre. Et ça, ces bâtiments en longueur, ça a servi longtemps de pénitencier. Maison de détention, c'est ça, c'est ces bâtiments-là. On est en 2013 et ces bâtiments sont toujours là. Là, on a une auberge de jeunesse, là, il y a un petit immeuble, sans doute associatif. Le bâtiment qui abritait Auguste Blanqui, c'était là. C'était celui-là.
Celui à droite.
Celui qui est à droite, là. Il y a un peu, tiens, les gens sont en train d'éteindre la lumière, ils écoutent un peu de musique, là, c'est l'été, il fait très beau. Et c'est là qu'il a séjourné, donc entre 1850 et 1857.
Auguste Blanqui.
Auguste Blanqui. Alors on se dit, mais attendez, voir qui était Auguste Blanqui. Auguste Blanqui, c'était l'enfermé. Auguste Blanqui a vécu 73 ans, et sur les 73 ans de sa vie, il a passé 33 années en prison. 33 années en prison. Il a été condamné à mort quatre fois. Quatre fois condamné à mort et quatre fois il a été gracié. En 1871, pendant la Commune, il était là, mais il était enfermé pendant la Commune. Et Karl Marx, qui l'admirait beaucoup, a dit « Auguste Blanqui est le chef qui a manqué à la Commune ». Pourquoi il a passé autant de temps en prison ? Sa vision du socialisme, c'était un socialisme insurrectionnel. Il voyait la révolution par l'insurrection. Il a donc passé l'essentiel de sa vie en prison, et ici, à Belle-Île-en-Mer, il a passé 7 ans, de 1850 à 1857. Dans ces longs bâtiments en longueur que nous voyons là, il y avait, à cette époque, 1850, donc 2 ans après 1848, 250 à 300 détenus politiques, dont Blanqui, dont Barbès. Il y a un gars qui s'en va avec sa mobilette. Voilà, on est au-dessus de la citadelle de Belle-Île-en-Mer, un endroit qu'on appelle la Haute Boulogne, où les bâtiments qui ont enfermé ou qui servaient de pénitencier à ces déportés politiques sont toujours là. Certains sont à l'abandon, d'autres ont différents usages, restos du cœur, maisons de jeunes, maisons de la nature, etc. Mais les bâtiments sont toujours là et le mur d'enceinte, construit en 1849, est toujours là, hérissé de tessons de verre. C'est là où nous sommes. Alors, on vient de parler de Blanqui et on a entendu le nom de Barbès. Barbès. Pour nous, c'est Barbès Rochechouart. Pour nous, les parigots, c'est Barbès Rochechouart. Oui, mais non, Barbès, c'était Armand Barbès. Et Armand Barbès était un autre homme politique, engagé, socialiste, républicain, mais qui n'avait pas les mêmes idées que Blanqui. Et après la révolution de 1848, donc il y a cette déportation de ces détenus, ils sont environ 300 dans ces bâtiments, et les deux figures principales sont Auguste Blanqui et Armand Barbès. Et ils vont se castagner, il y aura des polémiques à n'en plus finir entre eux, et les détenus politiques seront divisés. De cette division, de ces controverses, ces polémiques, eh bien, naîtront des textes, des déclarations qui animeront, qui agiteront et qui fonderont, peut-on dire, les luttes sociales et l'histoire sociale, politique du 19e siècle. Donc, il y a eu un moment où, là où nous sommes, eh bien, c'était le foyer d'où partaient les idées, l'agitation sociale et politique au 19e siècle. Ce que je vous dis là, c'est Maurice Domanget, un historien remarquable, qui raconte ça dans un bouquin consacré à Blanqui, à Belle-Île-en-Mer. Je vous avoue avoir découvert ce bouquin récemment, pendant ces vacances à Belle-Île. Donc, il y a cette nuit de 1853 que j'ai évoquée, au cours de laquelle Blanqui tente l'évasion avec son camarade. Il racontera ensuite cette évasion. Il racontera à sa mère. On va voir que sa mère avait un rôle très important, la veuve Blanqui. Et il finira le récit de cette aventure en disant à sa mère: « Petit homme n'est pas mort. »
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu brûlé la chair. Ses fils naissent sur la paille pour poiler non qu'un taudis. C'est la canaille. Eh bien j'en suis, c'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse qui sort d'on ne sait pas où. C'est le père qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, le bohème, qui sans souper une rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons, quand sonne sa 20e année pour entrer dans leur bataillon. Chez un canon de la bataille, toujours il succombe sans bruit. C'est la canaille, eh bien j'en suis, j'en suis. Les uns travaillent pour la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille, les seuils les affaiblit. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, les tuant à lions et sabots. Qu'à bout de souffrance le peuple appelle sous les drapeaux. tirent à la mitraille, ils feront dire aux ennemis, fuyons, c'est la canaille. Eh bien j'en suis enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons et sabots. Qu'à bout de souffrance, le peuple appelle sous les drapeaux. Dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, fuyons, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Alors, nous voilà devant un personnage oublié de l'histoire, mais pas forcément oublié des Parisiens, Éric Cazan, parce qu'il existe quand même à Paris un boulevard Auguste Blanqui, qui va de la place d'Italie à la Santé. Ça, c'est pas indifférent, cet itinéraire.
Oui.
Vous qui êtes un furieux piéton de Paris, avant d'être un blanquiste.
Oui, c'est vrai. Ça s'appelait le boulevard d'Italie. Et c'est vers la fin du... au début du XXe siècle, je pense, que le nom a changé. Parce que Blanqui est mort là, il a habité là dans les dernières années de sa vie. Quand il a été libéré, très tard, il a été libéré sur une campagne très énergique de Victor Hugo et de Clémenceau. Mmh. Parce qu'il était condamné à perpétuité. La dernière condamnation qu'il a eue, c'était perpétuité. Et quand il est sorti de prison... Il a été accueilli de façon triomphale à Paris, à Lyon, à Marseille. Et il habitait un petit appartement. Il a toujours vécu comme un pauvre, lui.
Février 2007. Alors, voilà une petite brève introduction à Blanqui. Daniel Ben Saïd aussi, vous voyez comme un blanquiste.
Oh, j'endosserais volontiers, oui, oui. C'est que, au moins sur sa figure d'irréconciliable et d'irrécupérable. Il est aujourd'hui de bon ton de détrousser les cadavres. Sarkozy cite Jaurès, Ségolène cite Rosa Luxembourg. Je crois que Blanqui au moins sera épargné par ça. Il n'est pas citable et réhabilitable dans la bien-pensance actuelle.
Alors tout de suite, ça nous renvoie à une idée quand même qu'on a du personnage, aussi floue et lointaine soit-elle, aussi cliché soit-elle, c'est le côté autoritaire du personnage.
Disons que c'est le type même du vaincu magnifique, d'une certaine manière, qui incarne tout ce mouvement du siècle. C'est un personnage de transition qui est né à la politique dans les révolutions de 1830 et qui finit sa vie dans la naissance du mouvement ouvrier moderne, c'est-à-dire de la création des syndicats, d'un mouvement massif. Il fait le lien entre ces deux époques. Et Marx disait « Blanqui, c'est le nom propre » que la bourgeoisie a trouvé pour le communisme. Donc il y a là une identité, un hommage, et la question de la nomination des noms pour Blanqui est déterminante. Hein. Quand il se bagarre devant les juges de Bourges, devant le procès, on lui dit « profession », par trois fois il répond « prolétaire
oui, », oui.
C'est un magnifique défi.
Alors, est-ce qu'on peut, à grands pas, retracer le parcours de Blanqui dans ce 19e siècle, dans cette parenthèse dont vous parliez tout à l'heure?
Oui. Il démarre sa première manif, c'est 1827, au cours d'une nuit bizarre où il y a des barricades qui se dressent dans la rue Saint-Denis sans qu'on sache très bien qui les a faites.
Il a 22 ans.
Oui. Et là, il est blessé au cou. Après, en 1830, il est sténographe au Globe. Le Globe, c'était à l'époque l'organe, le journal de l'opposition libérale. Alors, quand la révolution éclate, le 27 juillet 1830, il arrive au Globe avec la cocarde tricolore. Et il dit « Bon, allez, maintenant, on y va. » Et Victor Cousin lui dit « Jeune homme, le drapeau blanc est le drapeau de la France. » Alors il dit « Bon, d'accord, il s'en va, il les laisse tomber, il prend son fusil. » En 1832, il y a ce fameux procès de Bourges, c'est là qu'il répond au procureur prolétaire. Après, il monte une série d'insurrections dans les années 30. La dernière était en 39, l'insurrection de la Société des Saisons, où il est condamné, emprisonné... Et il ressort au moment de 48, c'est un des grands moments, un des pics de sa carrière, c'est le Club Blanqui, la Société Républicaine Centrale, dans la salle du Conservatoire à Paris, où vient tout Paris. Baudelaire, le Comte de Lille, tout ce qui compte de la vie littéraire et intellectuelle fréquente le Club Blanqui. Et malheureusement, en mai 48, il est mis en prison. Il rate donc l'événement essentiel que sont les journées de juin 48. Il les passe en prison. Comme il passera en prison la Commune, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment extrêmement malencontreux pour le devenir de ces événements terribles. C'est que Blanqui n'était pas là. Après, bon, je passe vite, mais enfin, il a passé pratiquement tout le Second Empire en prison à Belle-Île et puis ensuite en Corse et en Algérie. Il est libéré au moment de la chute de l'Empire. Il monte la dernière de ses insurrections en janvier 70, l'affaire de la Villette, où il prend une caserne d'assaut sur le boulevard de la Villette. Il est mis en prison, si bien qu'il rate encore une fois la Commune. Thiers refuse de l'échanger contre tous les otages, y compris l'archevêque de Paris, en disant « si on leur donne Blanqui aux communards, là ça devient très mauvais ». Il est condamné à perpétuité, on l'a dit, et libéré sous cette campagne. Et un de ses derniers textes, c'est la lettre à Clémenceau, Clémenceau qui faisait à cette époque la figure de grand leader de l'extrême-gauche. Et par cette lettre magnifique, il lui passe le flambeau qu'il avait recueilli des mains de... par l'intermédiaire du Borenti, de Babeuf, quoi. Il fait vraiment le lien entre la Révolution française et les débuts du mouvement ouvrier moderne.
Si l'homme en l'an 93 du soin donne ne songer qu'à lui, travaillons pour nous aujourd'hui, faisons-nous une Marseillaise libre.
C'est une belle nuit d'été, étoilée, magnifique. Il y a une lune rousse, une de 2000 lunes rousses. C'est très beau, elle est vraiment coupée en deux comme ça, la lune. Rousse, mais cette nuit-là, il n'y avait pas de lune du tout. Le 4 avril 1853, la nuit du 4 au 5 avril 1853, était une nuit sans lune. Et c'est la nuit qu'ils avaient choisie pour s'évader. Auguste Blanqui et son ami Cazavant, son collègue Cazavant, son comparse Cazavant, tous deux avaient choisi cette nuit-là pour s'évader d'ici, de la maison de détention. Ils avaient prévu leur coup depuis longtemps. Auguste Blanqui ne parlait plus du tout aux gardiens. Il ne les regardait pas, il ne leur répondait pas. Quand c'était l'appel, il ne répondait pas du tout. Cazavant faisait pareil, il ne répondait pas du tout. Et le soir, quand le gardien passait devant les cellules, il ouvrait la porte et il voyait Blanqui en train d'écrire avec sa lampe, une petite lampe. Il était en train d'écrire ou de lire. Il disait « Blanqui !» L'autre ne répondait pas, ne bougeait pas. Et puis, pareil, chez Cazavant. « Cazavant !» Ne répondait pas, ne bougeait pas, restait dans la pénombre avec la loupiote allumée. Les gardiens allaient parler au directeur, ils disent « qu'est-ce que c'est ?» Ils répondent « pas présent », etc. Le directeur lui dit « bon, laissez faire, ils sont là, on voit bien qu'ils sont là ». Et ils ont fait ça pendant deux ans, à ne pas répondre et à ne pas regarder les gardiens. C'est à partir de ça qu'ils ont basé leur évasion, c'est-à-dire que cette nuit-là, la nuit du 4 avril 1853, le gardien a ouvert la porte, a dit « Blanqui !» Ça n'a pas répondu normalement. « Cazavant !» Ça n'a pas répondu normalement. Pourquoi ça n'a pas répondu? Parce qu'ils n'étaient plus là, c'était des mannequins. Ils avaient fabriqué des mannequins leur ressemblant avec leurs propres vêtements. Ils avaient mis de la paille dedans, ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour que les silhouettes soient absolument ressemblantes. Mais ils étaient partis, ils avaient pris la tangente. Il faisait très froid cette nuit-là, il pleuvait... Une de ces petites pluies bien glacées, bien fines et qui s'insinuent à travers les vêtements. Et sous sa capote, Blanqui avait fabriqué un cordage avec des bouts de drap, des bouts de ficelle et Cazavant aussi. Et ils sont descendus quelque part par là en diagonale.
Et ils sont passés par un puits. Alors là, c'est très long, leur évasion. Comment ils ont échappé? Ils se sont pendus à l'intérieur du puits. Ils se sont retrouvés avec de l'eau jusqu'à mi-corps. Ensuite, ils se sont hissés à la force des bras. C'était pas des athlètes. Blanqui était tout petit, il mesurait un peu plus d'1m60. C'était un type très malingre, comme ça. Casavant était plus baraqué. Mais il a fallu escalader des murs. On les voit, d'ailleurs, les murs sont toujours là. Hein. Le mur d'enceinte, il est toujours là, avec les tessons de bouteilles de verre sur le haut du mur, c'est toujours là. Et Blanqui racontera, parce qu'il racontera son évasion ensuite, comment ils mettent une de leurs capotes sur les morceaux de verre pour pouvoir escalader. Il raconte aussi comment, pour monter le long d'un mur, ils n'ont aucun autre moyen que leur propre couteau. Ils ont des couteaux, ils plantent les couteaux dans le mur, et ça fait comme des marches. Tour à tour, un couteau, comme ça, ils arrivent à grimper. Et enfin, ils arrivent à sortir de cette citadelle dont on ne sort pas. Et ils vont prendre le large dans cette nuit, cette pluie, ce froid. Et ils vont se diriger sur le phare de Kerviloen. Il faut imaginer les deux fuyards rampants entre les sentiers, les fossés, les ruisseaux, la lande rugueuse et les ajoncs épineux se guidant sur le phare de Belle-Île-en-Mer, le phare de Kerviloen. Et dans le récit qu'il fait, l'historien Maurice Demanget dit qu'il se guide sur la lumière rouge du phare. Ce phare n'a jamais eu de lumière rouge, blanc, jaune si l'on veut, mais jamais rouge. Mais bon, c'est Blanqui quand même. C'est Blanqui et son collègue Casavant qui tâchent de s'enfuir, et c'est pas rien. Une petite chose à dire, à ajouter à ce que disait tout à l'heure, à l'instant, Eric Hazan et Daniel Ben Saïd, dans cette histoire-là, c'est le rôle des femmes, notamment à Belle-Île-en-Mer. Il y a 300 détenus politiques et leur famille et leurs femmes sont très souvent là, logeant au port, à le palais. Et parmi ces femmes, il y en a une qui est toute petite, aussi petite que son fils. Blanqui était un homme très très petit. Toute petite femme, âgée, très rusée, et qui partage toutes les opinions et toutes les idées de son fiston, et qu'on appelle la veuve Blanqui. Blanqui a été aidée par sa mère, la veuve Blanqui. Elle a 75 ans, elle est aussi menue et sèche que son fiston, et elle a soutenu son fils pendant toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle venait ici, elle parvenait à lui faire passer des documents, des livres, des courriers, des journaux, du papier, et lui donnait les textes et les lettres qu'il écrivait et qu'elle communiquait ensuite. Elle a été vraiment la militante de son propre fils. Alors, au cours de ses séjours, ici, à Belle-Île, la mère d'Auguste Blanqui s'était rendue à Kerviloen, c'est-à-dire le village au pied du phare de Belle-Île-en-Mer. Et là, cette vieille dame avait séjourné à l'auberge, s'était renseignée, et on avait conclu que c'était de là qu'il fallait partir et faire des arrangements avec des pêcheurs susceptibles d'emmener les fuyards jusqu'à des navires qui croisaient là au large vers l'Angleterre ou vers l'Espagne, ou vers le Portugal, mais certainement pas de rentrer en France. Elle avait fait autre chose aussi, c'est qu'elle avait apporté de l'argent à son fils, à Auguste Blanqui, qu'elle avait trouvé parmi les soutiens à Blanqui. Il avait aussi de l'argent en vue de cette évasion, qui avait été collecté parmi les détenus eux-mêmes qui soutenaient Blanqui. En tout, il avait 1200 francs or. Je ne sais pas très bien ce que ça représente, mais c'était une somme considérable. Casavant avait de l'argent aussi. Et ils sortent, ils ont réussi enfin à s'extirper de la citadelle. Ils vont suivre la Saline au fond du port de Palais et ensuite ils vont se diriger vers le phare de Kervilawen, mais ils vont éviter les chemins. C'est-à-dire qu'ils vont traverser les fondrières, les étangs, les flaques, les ronces sous la pluie, dans le froid. Ils vont se diriger comme ça jusqu'au pied du phare, jusqu'à Envague, un lieu dit qui s'appelle Envague, et jusqu'à Radenec.
Pendant que sur la mer profonde, les cachalots et le requin, ces écumeurs géants de l'onde, libres dévorent le fretin, nous autres cloués à la rive, où la bourrasque a rejeté notre barque un instant rétive, nous pleurons notre liberté. Et cependant, ô Sainte République, quoi qu'aujourd'hui de ton pain noir nourri, chacun de nous, pour ta gloire eût péri, et mourrait encore sans réplique. Nous le jurons par l'Atlantique, nous le jurons par l'Atlantique, nous le jurons par l'Atlantique, par nos fers et par Saint-Méry. Sous les yeux du fort sur la grève, quand nous errons le long du jour, nous berçant dans quelque doux rêve, ou de république, ou d'amour, la vague des plages lointaines apporte à notre sombre écueil râle de mort et bruit de chaîne. La démocratie est en deuil. Et cependant, ô Sainte République, quoi qu'aujourd'hui de ton pain noir nourri, chacun de nous pour ta gloire eût péri et mourrait encore sans réplique. Nous le jurons par l'Atlantique, nous le jurons par l'Atlantique, nous le jurons par l'Atlantique, par nos fers et par Saint-Méry.
Belle-Île s'est passé de la relégation, c'était un lieu de relégation et c'est devenu un lieu de délectation. Mais Auguste Blanqui est oublié. Parmi les raisons, on peut en voir tout de suite deux. D'abord, c'est que Auguste Blanqui était un révolutionnaire, un théoricien de l'insurrection. Donc on peut tout à fait comprendre qu'il est adversaire et que, comme l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs, qu'on est plutôt cherché à gommer la figure d'Auguste Blanqui. Mais il y a une autre raison, c'est qu'on verra comment il a été trahi, comment il a été dénoncé, et comment il y a quelque chose d'un peu moche, il y a un malaise pour les Bélilois qui ont été ceux qui l'ont dénoncé. Et ça, c'est quelque chose dont ils sont peut-être pas très très fiers.
Le sens aigu de l'odeur transforme en meurtrier les plus honnêtes gens. Je n'ai que le sens aigu de l'honneur.
Radenec, on a prononcé le nom de ce petit village délicieux de Belle-Île sur la côte sauvage qui s'appelle Radenec.
Et on a voulu aller à Radenec pour voir s'il y a des traces de Blanqui, si on se souvient de quelque chose et de la fameuse maison dans laquelle Blanqui, avec son camarade Casavant, on s'est journé. Est-ce qu'il y a une trace? Alors, on est passé par la société historique de Belle-Île-en-Mer, une société formidable qui est basée à Locmaria. Et puis, on est allé faire un tour à Radenec, voir si quelqu'un pouvait nous dire quelque chose sur Blanqui. Et sur le lieu, sur cette maison où peut-être il aurait passé cette fameuse nuit avec son comparse. Et là, on a rencontré, belle journée d'été, Pascal Guiriec, qui a beaucoup de choses à dire, des choses qui peut-être relèvent des contes et légendes belilloises, mais en lien en tout cas avec Auguste Blanqui l'enfermé.
C'est quand même étonnant de savoir qu'on est un village de l'histoire de France. Mmh. Alors voilà, en fait, là, quand ils ont été arrêtés, ils ont été conduits dans cette maison-là.
Ah bon? Alors comment vous savez ça?
C'est mon père qui nous l'a raconté, parce qu'à l'époque, ça, c'était une maison qui appartenait à notre famille.
Ah, d'accord. Voilà. Alors vous êtes Pascal Guiriec? Oui. Vous habitez là à l'année? Non,
pas encore, mais en septembre, j'y habite.
Ah bon, à l'année?
Oui.
Et vous êtes une vieille famille de Belle-Île?
Oui, parce que en fait, mon père est né dans la maison que je vous ai montrée, ma mère est née dans cette maison-là.
Ah d'accord. Et là?
Là, il y avait une maison, une toute petite maison, et vous aviez une partie grange, et c'est là que Blanqui a été arrêté.
Là, ce qu'on voit, c'est un tas de pierres, hein, c'est une ruine, un bout de mur ici, un mur un peu plus au fond, et puis c'est envahi par les herbes sèches.
On voit encore la séparation de la partie habitation de partie grange.
Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est là? Qu'est-ce qui vous a transmis ça?
Familial.
On a toujours dit dans la famille
oui,
que...
Oui, pas que la famille, les gens du village savent que c'est là.
Selon vous, le scénario, Pascal?
Ils sont arrivés à Kervilaouen et en fait, ils sont descendus à Envague. À Envague, ils ont rencontré quelqu'un. Et ils ont demandé à cette personne, connaissez-vous Jean-Louis de Radenec? La personne d'Envague leur donne l'adresse de Radenec, dit ben voilà, il faut passer par le petit chemin du vallon. Ils arrivent à Radenec et ils tombent sur le fameux Jean-Louis qui habitait ici. Mais le Jean-Louis était paysan, pas marin. Mm-hmm. Et avec Jean-Louis, il y avait un deuxième personnage qui était plus jeune, qui était marin et qui était avec lui. Mm-hmm. Et c'est lui qui leur a dit ben moi, je veux bien vous faire passer moyennant finance. Donc il conclut le marché. Ils ont attendu le lendemain, mais en fait, bon, je pense que celui qui est allé les dénoncer avait un autre plan dans sa tête. C'était plutôt d'aller empocher la récompense, parce qu'il s'était fait payer pour le passage, mais il s'est dit, tiens, je vais faire deux pierres d'un coup, je vais récupérer la monnaie sonnante et trébuchante. Comme c'était un peu la misère, ça mettait un peu de beurre dans les épinards, voilà.
Et alors, selon votre père, ce sera un de vos ancêtres, le délateur, on est en présence du descendant
alors,
du
c'est
délateur.
Arrière-grand-père de mon père.
Qui aurait été le délateur.
Qui aurait été le délateur.
Votre ancêtre, il s'appelait Portugal.
Portugal, Jean-Marie Portugal. Ça a bien été confirmé.
Parce qu'il y avait autre chose. Si tu dénonçais pas, tu pouvais avoir des emmerdements. Tu étais complice. Il y a un moment, il faut choisir. Ou bien tu dénonces et tu as ce qu'ils appelaient les honneurs, l'honneur, entre guillemets, c'est-à-dire la prime de dénonciation. Mais si tu dénonces pas tes complices, et à ce moment-là, tu risques de te retrouver avec eux au pénitencier.
Et je crois qu'à l'époque, l'honneur était assez important. Dans le bouquin, l'enfermé, ils en parlent, c'est 100 francs or.
Mais alors, Portugal, le dénonciateur, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, vous savez?
Non, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait.
Vous êtes l'héritier quand même. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Dites-le.
Et alors l'arrestation, ça s'est passé comment?
Alors l'arrestation, en fait, ils ont passé la nuit dans la grange, donc chez le fameux paysan.
Là où on est en ce moment.
L'armée est arrivée, ils se sont fait arrêter, ils sont partis avec les menottes et puis en route, ils sont repartis à Palais.
Ils sont partis nus, hein, ils ont été déshabillés.
Déshabillés, fouillés, oui.
Et ce qu'on raconte, c'est que le commandant de la garnison qui était là a commandé une charrette pour les reconduire à Palais. Et il a même précisé, pas une charrette, mais un tombereau. C'est-à-dire en dessous, quoi. Le tombereau, c'est pour transporter les marchandises, mais pas les hommes.
Blanqui, qui était tout petit, tout maigre, avec sa barbe blanche, et on lui met une couverture trouée sur le dos. Casavant, qui était baraqué, lui, suit à pied. Et les voilà qui marchent jusqu'à Palais avec les Bélilois qui les regardent passer, tantôt complaisants, tantôt agressifs et tantôt aussi complices, parce que Blanqui était un personnage, une figure révolutionnaire. Donc il avait quand même quelques soutiens dans la population ici de Belle-Île. Et c'est curieux que ce soit resté une ruine depuis 1853. 1853, ça fait 130 ans. Les maisons du pendu, les maisons, etc. Ouais. Faut pas acheter ces maisons-là.
Ça porte malheur.
Ah ben oui. Moi, je me souviens des sorcières. Il y avait une sorcière à Bornor. Si tu la croisais avec du lait, ton lait tournait immédiatement. Donc il fallait que tu contournes Bornor avec ton lait. On la voyait de temps en temps, la sorcière. Il fallait se barrer. Hein.
Tu l'as déjà vue?
De loin. De très loin. Non, mais nous on rigole parce qu'on fait les malins, mais les gens rigolaient pas. Hein, c'était...
À l'époque, pour les carvi, il fallait mettre les pouces, ce qu'on appelle les pouces en dedans, si on croisait le malin sur le chemin, c'était dramatique.
Enfin, les pouces en dedans, c'est-à-dire vous rentrez vos pouces là dans les mains?
On rentrait les pouces, pourquoi, voilà. Je sais pas, parce que ça faisait paratonnerre, j'en sais rien. Voilà.
Et t'avais la charrette la nuit.
La charrette?
De l'encou.
L'encou,
la mort. En breton. Qui vient te chercher avec sa faux d'agronome. L'encou. T'entends la charrette qui arrive la nuit. Tu mets les pouces en dedans dans ces cas-là. La charrette s'arrête.
Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être
C'est quand même lui, on a peut-être oublié le principal, qui a créé l'expression « ni Dieu ni maître ».
Oui.
Il a passé son temps donc à pondre tous ses textes et il crée un certain nombre de journaux tout au long de sa vie. Et « ni Dieu ni maître », ce sera le dernier journal qu'il va créer en 1880, Éric Cazan.
Le premier, c'était « Le Libérateur, journal des opprimés ». Oui. Dans les années 1830, il y a eu deux numéros, après il a été saisi, comme bien souvent ces journaux d'ailleurs. Hein. Ça n'allait pas très loin.
Mais il prépare l'émeute, Blanqui.
Mais c'est ça. Le côté très autoritaire qu'on lui attribue, il est vrai dans son côté militaire, dans son côté préparation des insurrections. Là, il y a une discipline d'acier. En revanche, quand il parle de la révolution, il dit « la révolution inventera ses propres formes de vie ». Il ne décrit jamais la société idéale à forger après la révolution. Jamais.
Est-ce qu'il aurait pu prendre le pouvoir? Est-ce qu'il y a des occasions où il aurait pu prendre le pouvoir? Daniel Ben Saïd.
Mais la question, elle est au cœur, finalement, de la pensée de Blanqui, parce que c'est qui est une pensée de l'événement, qui n'est pas une pensée d'une histoire mécanique. Donc, il y a des ouvertures du possible. Et tout le texte de l'éternité par les astres est là-dessus. C'est l'éternelle répétition des défaites, mais seul le chapitre des bifurcations, écrit-il, est ouvert à l'espérance. À l'époque, d'ailleurs, c'est une formule extraordinaire. Hein. Le terme de bifurcation qui est devenu banal dans la physique ou dans les mathématiques modernes, il est utilisé politiquement par Blanqui pour dire, bon, il y a une grande probabilité de défaite, mais il y a une possibilité de victoire à ne pas rater. Et effectivement, s'il y a une conjoncture entre la chute de l'Empire et la Commune, il y a une réelle possibilité. En tout cas, on peut pas... Son propos, c'est de dire, ce qui est arrivé... ne devait pas fatalement arriver. Ça, c'est justement l'écriture des positivistes qui est une culture du fait accompli. Ce qui est arrivé était inscrit dans l'histoire. Blanqui s'insurge en permanence contre ce fatalisme-là. Il y a une portée propre de l'événement, il y a une ouverture du possible à un moment donné, il y a un moment politique, et la séquence chute de l'Empire commune est précisément un de ces moments propices. On raconte, et c'est pas contesté, que Blanqui faisait défiler quand même 3000 de ces partisans organisés de forme quasi paramilitaire, c'est quand même de la dimension d'un parti pas négligeable dans le Paris de l'époque. Hein.
C'est très beau ce passage de la biographie de Blanqui par Geffroy, où on voit le vieux, en redingote, adossé à un arbre des Jardins des Champs-Élysées, qui voit passer son armée au milieu de la foule. C'est très très beau, c'est très poétique.
Est-ce que selon vous, Blanqui a changé le cours de l'histoire ?
Qu'est-ce que changer le cours de l'histoire ?
D'abord, qu'est-ce que le cours, voilà, qu'est-ce que le cours de l'histoire ? Ah non, mais...
Qu'est-ce que le cours, qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que changer ? Non, non, répondez à la question.
Non, le vrai problème, c'est est-ce que... bon, changer le monde, effectivement...
Est-ce qu'il a infléchi le cours de l'histoire ?
Mais... est-ce qu'il a laissé des traces, un héritage ? Ça, je crois que oui, avec des moments d'oubli, mais le fait que finalement, le critère, c'est ce que Blanqui nous parle et nous dit quelque chose aujourd'hui. Et je crois qu'à mon avis, indiscutablement, oui, c'est une école d'éthique politique, hein, pas de moralisme, mais d'éthique politique et militante. C'est une école philosophique, j'irai jusque-là, contre justement les philosophies de l'histoire, le grand fleuve tranquille, etc. etc. Et puis c'est une école appelée un chat, quand il dit, bon, démocrate, républicain, comme ça, c'est des mots bourgeois et prolétaire, c'est appelé un chat, c'est une politique, une culture du conflit, justement, qui a été refoulé dans toutes les années passées par la rhétorique du consensus, et la redécouverte aujourd'hui de Blanqui n'est pas fortuite. Il est dans notre actualité, d'une certaine manière.
D'accord, Éric Cazan, avec ça ?
Complètement d'accord. Complètement d'accord. Il dit, voilà pourquoi ils proscrivent, je lis là, hein, ils proscrivent, c'est-à-dire les aristos, les termes prolétaires et bourgeois. Ceux-là ont un sens clair et net, ils disent catégoriquement les choses, et c'est ce qui déplaît. On les repousse comme provocateurs de la guerre civile. Cette raison ne suffit-il pas pour vous ouvrir les yeux ? Qu'est-ce donc que nous sommes contraints de faire depuis si longtemps, sinon la guerre civile ? Et contre qui ? Ah, voilà précisément la question qu'on s'efforce d'embrouiller par l'obscurité des mots. Ça, c'est valable complètement aujourd'hui.
Merci Éric Cazan et Daniel Bensaïd. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission du 12 février 2007 sur le site labat.org, la-bas.org. C'était Blanqui à Belle-Île, Petit homme n'est pas mort, un reportage avec Anaëlle Verzeau. Merci à Gérald Muge, Pascal Guiriec, à Régine Thomas de la Société historique de Locmaria, ainsi qu'à David Favier. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis il y a aussi la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Florent Layani. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Demain, si tout va bien, on ira dans les Landes, on ira à Uzest autour du camarade de Bernard Luba, en musique et en festival. Voilà, on se retrouve donc demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Dans un instant, vous retrouverez l'ami Hervé Pochon. À demain, 15h, pour Là-bas si j'y suis.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous et bienvenue au camping Yes We Camp. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce camping ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre camping ?
Alors moi j'aimerais mettre le doigt sur la façon dont on a pu gérer l'eau. Parce qu'ici, on est à Marseille. Et ici, ben, par exemple, on n'a jamais de restriction d'eau. Hein ? Mais on a fait en sorte de trouver un moyen que cette eau avec laquelle on se douchait, cette eau grise, devienne une eau dont on se sert et qu'on ne balance pas directement à la mer. Voilà, donc ça c'est un des points particuliers. Ensuite, c'est un interstice urbain sur lequel on est venu s'installer. C'est toute une aventure. C'est ce que vous avez peut-être découvert d'ailleurs.
Ben, j'espère. On est à Marseille ou on est à l'Estac ?
À l'Estac.
On est à l'Estac.
On est à l'Estac Rio.
L'Estac Rio, pourquoi ?
Les derniers quartiers nord.
Ah, c'est ça.
Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui.
Pourquoi ? À l'époque, c'était comment ?
À l'époque, c'était le gaz, le chlore, le soufre, l'arsenic. Et aujourd'hui, ça a changé. Tout le monde veut venir à l'Estac, mais à l'époque, c'est pas possible.
Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'usines qui polluaient.
Beaucoup de poisons, beaucoup de... Parce qu'on est des pères en vis ici. Je m'appelle Sid Farid, ça fait 40 ans que j'habite ici et je connais très bien le quartier Estac Rio. Et voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce quartier ? Vous travaillez
Je donne des coups de main à ces gens-là, là, comme eux, là. Bénévoles, voilà, tranquille, je passe le temps avec eux, ils sont agréables. Et c'est bien qu'ils ont fait un machin comme ça.
Comment vous le définiriez, ce machin comme ça ? Bon, au début,
très
on
bien. Dit... agréable, bien, ils sont bien sympas. Et c'est pas des gens qui sont... C'est pas n'importe qui. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils ont fait des machins incroyables et vrais, on va dire. Allez. Incroyables et vrais, c'est tout en récupération. Ouais. Et vous avez qu'à rentrer et visiter. Hein. Voir, il faut voir, il faut voir. Parce qu'au début, ils ont cru que c'était des Roumains, des Gitans. Oh, mais qu'en fait, non, ils sont le plus bas niveau, là, il est bac plus 2.
Bac plus 2, le plus bas niveau.
Ouais, ouais.
Ah oui.
Et c'est des gens agréables, assez intelligents, l'hygiène propre. Ça va, je trouve que c'est bien. Moi, j'habite en haut, moi. Et donc, il n'y a pas de problème. Hein.
Ah oui. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, pour.
Merci à vous. Vous n'avez qu'à aller visiter avec le jeune homme.
Ben, je vais y aller alors.
Merci. Allons-y.
Allez.
Bon, moi, je vous ai donné un bracelet, c'est parce que ici, pour essayer de faire en sorte que la sécurité soit assurée, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de gens qui rentrent sans problème, ouais. on leur fait inscrire leur nom et on leur met le bracelet. Voilà.
D'accord.
C'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, ben, on rentre sur les lieux qui ne ressemblent pas exactement à ce qu'on voit de dehors.
Bah, de dehors, on voit des échafaudages avec des bâches, mais là, quand on rentre, ben, on voit des tentes, ce qui est normal pour un camping. On voit des caravanes quand même qui sont en l'air, ça c'est original.
On essaye d'être originaux un peu. Hein. Vous avez la maison Bulle aussi, qui est une construction des années 60, qui représente aujourd'hui un morceau de notre patrimoine. Et c'est intéressant parce que ça a été construit à La Ciotat, c'est fait avec de la fibre de verre, la même chose que les bateaux. Et puis il y a ces tours que vous avez peut-être remarqué, qui sont là où nous prenons notre douche et qui permettent ensuite la gestion de l'eau. Et puis ben, c'est tout fait par des bénévoles comme moi, ou plus ou moins, parce qu'il y a deux types de bénévoles, des bénévoles qui vont durer plus longtemps que d'autres.
Des bénévoles qui gagnent de l'argent et des bénévoles qui en gagnent.
Il n'y a pas des bénévoles qui gagnent de l'argent, il y a des bénévoles qui restent 3 semaines et il y a des bénévoles qui restent 6 mois. Voilà.
Ah oui, et vous restez
6 mois.
6 mois. Mais alors qu'est-ce que vous faisiez avant de faire ça, Sébastien?
En fait, je suis fonctionnaire et fonctionnaire d'État. Et
c'est pour ça que vous rigolez, parce que...
Je suis en dépression totale, là, vous comprenez.
Vous êtes en arrêt maladie ?
C'est ça, non, je suis en arrêt maladie. Moi, j'adore ce pays socialiste qu'est la France, mais jamais le ministère de l'écologie m'aurait dépêché sur place, puisque ce n'est pas une administration, mais bien une association.
Donc c'est une manière pour vous de vous mettre en accord avec vos idées. Vous avez des idées écologiques, vous voulez les mettre en application. Vous ne trouvez pas de place au ministère en tant que fonctionnaire, parce que vous êtes dans quel ministère ?
Ben, je suis au ministère de l'écologie.
Ah, quand même ?
Oui, bien sûr. Alors dans ce ministère, aujourd'hui, on parle de choses qui se réaliseront dans 20 ans. Alors vous savez, quand tout le monde vient en voiture et vous parle de déplacement alors qu'il y a des transports en commun... Oh, voilà, ça c'est les collègues, mais c'est normal, hein, ils venaient de l'équipement avant, ils ont fait plein de routes, donc ils s'en servent. Donc ça va prendre un certain temps, et c'est le seul moyen que j'ai vraiment de ressentir, et puis comme ça, de pouvoir un peu mieux être en accord exactement avec ce qui est dit dans mon ministère. Mais bon...
Votre ministère, s'ils vous entendent à la radio, ils vont pas vous taper sur les doigts en disant « Dis donc, je croyais que t'étais en arrêt maladie ».
J'espère attraper Madame Duflo, qui devrait venir le 21 septembre pour essayer de voir avec elle... Hein.
D'accord.
Si elle peut assurer la chose. Non, je pense pas, je suis tout petit, je suis juste un petit dessinateur marseillais. Il préfère me savoir ici en forme, parce que quand même, l'état des devoirs envers ses agents est l'un d'entre creux de ses devoirs, c'est que leurs agents se portent bien. Ici, je me porte de mieux en mieux et j'espère retourner au travail rapidement.
D'accord, hein. D'accord.
Je me suis refait une santé. Voilà, je pense pas avoir.
Là, vous avez l'air bien. Vous êtes en maillot de bain, bien bronzé. Je peux pas le dire pour votre ministère, mais bon, vous serez vraiment en pleine forme quand vous aurez fini vos 6 mois.
Faire attention, parce que plus on est bronzé, plus on a travaillé hein, sur le site.
Bah oui,
vous verrez
que
ceux qui sont burinés, c'est ceux qui ont passé leur temps dessous.
Un temps de pochon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Ciao, les gars.
Ça bouge à cet âge-là.
Oh là là, oui, quelle santé, les petits, ça court dans tous les sens.
Heureusement, ils sont bien assurés.
Au moins, avec la Matmut, pas besoin de les attacher.
Merci la Matmut, l'assurance scolaire, c'est sacré.
Sacré gamin, quelle santé.
Garantie selon conditions définies au contrat et réservée aux sociétaires Matmut.
France Inter, partenaire du Festival du cinéma américain de Deauville, du 30 août au 8 septembre. Une sélection de plus de 80 films, dont 14 en compétition. Plongez au cœur de la société américaine avec les documentaires, hommages et avant-premières. De Steven Soderbergh à John Travolta, en passant par Nicolas Cage, Michael Douglas, Kate Blanchett ou Larry Clark, le meilleur du cinéma américain. Renseignements sur franceinter.fr.
La tête au carré.
Carré.
Mathieu Vidard.
Les troubles de l'apprentissage chez l'enfant et l'adolescent, c'est dans la tête au carré, on en parle ce mercredi. Comment les repérer et quelle est la pédagogie la mieux adaptée en cas de dépistage de ces troubles? On en parle avec toutes vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le hashtag l'attaque.
Du lundi au vendredi à 14h, la tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
MAF Assurance, bonjour.
Bonjour Miss MAF, mon moral suit la courbe de mon pouvoir d'achat. Il est en baisse. Vous n'auriez pas une petite bonne nouvelle?
J'en ai une grande. La MAF redonne du pouvoir d'achat à ses clients en leur remboursant 5% sur leur assurance auto 2013.
Moins 5% sur 2013? Vous pouvez faire ça pour moi?
Mais oui, c'est ce qu'on appelle le MAF Power.
Oh, vous avez un grand MAF Power sur moi, Miss MAF.
C'est la MAF.
Conditions sur MAF.fr et dans les agences MAF.
Dès demain 15h, on retrouve Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Laetitia Gaillet.
La Ligue arabe enfonce le clou syrien. Elle tient aujourd'hui Bachar el-Assad pour responsable de l'attaque chimique présumée de la semaine dernière dans la banlieue de Damas. Elle invite également l'ONU à agir. Elle estime que les auteurs de l'attaque, qui a fait plusieurs centaines de victimes civiles, qu'il faut qu'ils comparaissent devant la justice internationale. Concernant la réponse militaire maintenant à cette attaque, eh bien elle semble se préciser. Dernière déclaration en date, celle de Chuck Hagel, le secrétaire d'État américain à la Défense. Nous sommes prêts à intervenir si Barack Obama nous en donne l'ordre. Réponse de la Syrie, nous sommes prêts à nous défendre. Le juge des référés du Conseil d'État a donné raison cet après-midi à Mercedes. Il a suspendu la décision du gouvernement français du blocage des immatriculations de certaines de ses berlines. L'affaire portait sur le liquide de climatisation utilisé, pas conforme avec les normes européennes. Le juge ordonne donc la reprise de ces immatriculations sous 2 jours, en tout cas pour l'instant, car il faut encore attendre la décision définitive du Conseil d'État. Première nuit prometteuse pour le driving du sexe à Zurich en Suisse. Les services sociaux de la ville se sont félicités aujourd'hui de ses débuts. Une trentaine de prostituées s'y sont rendues et quelques clients ont fait le déplacement. La ville de Zurich a en effet ouvert officiellement hier soir un site doté de 9 sex box, des garages en fait dans lesquels des travailleuses du sexe peuvent accueillir leurs clients dans un cadre protégé. Il s'agit pour les autorités locales suisses de reprendre le contrôle de la prostitution en la déplaçant en dehors du centre-ville. En France, les premières récoltes de fruits de fin d'été après les pommes dans le Tarn-et-Garonne cette semaine, eh bien c'est parti pour la Mirabelle. Le coup d'envoi officiel de la récolte a été donné aujourd'hui en Lorraine avec 3 semaines de retard, conséquence du printemps froid et pluvieux. Compliqué l'avenir du club de foot du Mans. Quand il évoluait en Ligue 1, ça allait encore, mais les difficultés financières du Mans FC ont tout remis en cause, plus de 14 millions de dettes. Le club a été placé en redressement judiciaire aujourd'hui. Va-t-il pouvoir conserver son statut professionnel? Pas sûr, Yann Lastenette.
Le tribunal donne raison à l'URSSAF qui a saisi la justice le 8 juillet dernier. L'organisme social est l'un des nombreux créanciers du Mans FC. Il réclame au club sartois 213 000 euros de cotisations impayées. Le tribunal a repoussé deux fois sa décision afin de donner le temps au Mans FC d'honorer ses dettes. En vain, la justice a donc constaté la cessation de paiement du club d'Henri Legarda et placé le Mans FC en redressement judiciaire. Cette procédure gèle les dettes de l'entreprise pour une période de 6 mois, renouvelable une fois. Un répit qui doit permettre au Mans FC de trouver une solution pour apurer son passif qui s'élevait à près de 15 millions d'euros fin juin. Pendant cette période, les salariés conservent leur emploi, mais Henri Legarda n'est plus le seul maître à bord. Un administrateur va être nommé pour épauler le président sartois. Il va éplucher les comptes. Parallèlement, un mandataire va dresser la liste des créanciers. Si le club n'arrive pas à redresser la barre, il risque tout simplement la liquidation judiciaire. Yann Lastenet, France Bleu Maine pour France Inter.
Et le championnat de national qui a repris donc il y a 15 jours. Vous écoutez France Inter, il est 16h03. Eh non, je m'y fais jamais, monsieur l'Odéon, je m'y fais jamais. Il n'y a pas de pub, c'est à vous tout de suite.
Ah bah oui, quelquefois ça arrive, mais enfin pas aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour un nouveau flash. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, une nouveauté, même une avant-première, puisque la sortie du disque est programmée pour le 9 septembre. Keith Jarrett, le grand pianiste de jazz, entre autres, grand amoureux de Jean-Sébastien Bach, joue avec Michel Makarski des sonates pour violon et piano de Jean-Sébastien Bach. On sait qu'elles ont été composées pour violon et clavecin, mais enfin, maintenant, l'affaire est claire, on peut jouer Bach au piano, bien sûr. D'ailleurs, Keith Jarrett s'était consacré au compositeur en 1989, avec les fameuses variations Goldberg, en 90 avec le clavier bien tempéré, en 91 avec 3 sonates pour viol de gambe et clavecin, jouées à l'alto au lieu de la viol de gambe. Bref, il a remis ça et ça paraîtra bientôt le 9 septembre. Voici le final allegro de la première sonate pour violon et clavier du grand Jean-Sébastien Bach. Thank you. Michel Makarski au violon, une amie de Keith Jarrett qui l'a convaincu d'enregistrer les sonates de Jean-Sébastien Bach pour violon et clavier. Keith Jarrett donc s'est prêté de très bonne volonté à cet exercice et l'enregistrement, le double CD, paraîtra, nous dit-on, le 9 septembre. Autre grand pianiste qui passe souvent à la baguette avec succès, Daniel Barenboim. Et là, le disque est paru pendant le début du mois de juillet, donc nous n'étions pas là, mais on va l'entendre aujourd'hui. Et ce disque nous montre une fois de plus le talent et puis la nécessité de l'existence du West Eastern Divan Orchestra, c'est-à-dire l'orchestre Ouest et Est, titre inspiré du grand Goethe, et qui s'intéressait d'ailleurs aux Proches et au Moyen-Orient. L'idée, j'ai déjà évidemment parlé de cet orchestre ici même, c'est d'essayer de réconcilier ceux qui se battent ou qui sont dans des situations de tension en permanence, Israël, la Palestine, les Israéliens et les Arabes, et donc il y a un grand mélange de musiciens qui ont choisi, ils sont tous volontaires bien sûr, de jouer ensemble. Et quand on a fait un appel d'offres, les organisateurs comptaient qu'il y aurait entre 8 et 15 musiciens à s'inscrire. Et en fait, il y a eu 200 postulants rien que parmi les musiciens arabes, pour vous dire qu'il y a eu un élan. Bon, cet élan a été parfois merveilleux. L'orchestre a joué dans plein de pays, de Berlin à Londres, en passant par Moscou, Vienne, Milan, Paris. Et puis, il y a eu quelques menaces contre cet orchestre, des difficultés, mais en même temps ça continue, et puis il y a toujours cet esprit de trouver la paix à travers la musique, et puis la musique elle-même est fondamentalement respectée et jouée avec beaucoup de ferveur. Voici un extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, un moment de l'enfer. C'est pas l'enfer sur terre, puisqu'il s'agit du songe d'une nuit de sabbat. Les sorcières là-bas, très loin, mènent grand train et